Le National. Pour tout savoir de ce qui s'écrit dans nos provinces francophones, dans nos régions francophones, partout au pays, eh bien, c'est la bonne émission. C'est le National avec des articles que je suis allée chercher pour vous cette semaine et que je viens vous lire maintenant aujourd'hui. Alors salut, c'est Clotilde Seille. On va commencer, on va aller à Toronto dans le métropolitain.com, deux papiers différents. Tout d'abord celui-ci, une étude pour déterminer les services en français dans 5 hôpitaux. Le vendredi 1er mars, Reflet Salvéo a remis au Conseil de la coopération de l'Ontario, le CCO, un chèque de 5 000 $ pour effectuer une étude permettant d'évaluer l'efficience des services en français dans 5 établissements de santé du Grand Toronto. Ce fonds octroyé au CCO fait partie d'une initiative commencée il y a 4 ans par Reflet Salvéo et intitulée « Ma communauté s'engage ». Cette année, Reflet Salvéo a reçu des dossiers intéressants et ce fut difficile de faire un choix, a indiqué Gilles Marchildon, le directeur général de l'organisme. Cette étude, commencée au mois de janvier par le CCO, touche donc 5 établissements de soins, dont l'hôpital pour enfants, le Princess Margaret Center, Cancer Center et le Women's College Hospital, tous situés au cœur de Toronto. Et c'est un choix assumé par Julien Jérémy, le directeur adjoint du CCO. Cela reflète tout d'abord le mandat du CCO et c'était plus efficace pour nous de cibler des établissements qui étaient dans une proximité immédiate et auxquels on pouvait se rendre facilement en personne pour faire le processus d'évaluation, a-t-il précisé. Mais en quoi consiste l'étude exactement ? Nous partons du fait qu'il y a déjà des services en français dans ces hôpitaux, indique Clément Panzalvolta, agent de développement au CCO. Le CCO qui travaille sur 4 grands indicateurs qui sont les ressources humaines, est-ce que l'accueil à l'hôpital et les soins de santé du personnel soignant, du service des urgences et des organes de direction sont effectués en français? La communication interne, les panneaux d'indication et les formulaires d'inscription sont-ils bilingues, français-anglais? La communication externe à destination des clients potentiels, c'est-à-dire l'établissement a-t-il un site bilingue, des publications en français? Et enfin, la mise à disposition des ressources en santé, l'hôpital va-t-il rediriger le patient vers des médecins francophones après sa visite à l'hôpital? Cette étude s'étendra sur une période de 6 mois jusqu'à la fin du mois de juin environ et permettra de formuler des pistes d'action à suivre, voire des recommandations stratégiques qui auront pour but de créer de nouveaux services en français de qualité. En recevant ce rapport, ça va peut-être nous permettre de formuler des recommandations auprès du RLISS du centre de Toronto et des autres qui sont concernés suite à des écarts qui auront été identifiés, a conclu M. Marchildon. Et puis encore dans le métropolitain.com, célébrer notre francophonie juste pour le plaisir. L'Association canadienne d'éducation de langue française, l'ACELF, A-C-E-L-F, lance la 26e édition de la Semaine nationale de la francophonie, la SNF, qui se tient dans le cadre des rendez-vous de la francophonie jusqu'au 21 mars 2018 sous le thème « Juste pour le plaisir de jouer ». La thématique 2018 invite à jouer en français tout simplement. Toutes sortes de jeux, juste pour le plaisir de s'amuser en français. À tout âge, le jeu est un moyen très puissant pour favoriser de multiples apprentissages. On apprend sans trop s'en rendre compte, c'est rassembleur et les jeunes s'impliquent davantage, a mentionné la présidente de la SELF, Anne Vinet-Roy. Le concours Franco-Portrait invite les jeunes à relever un défi photo et un défi texte, 140 caractères et moins. Chaque volet du concours inclut le jeu dans le défi proposé selon le groupe d'âge. Les écoles et les centres de la petite enfance francophone ont jusqu'au 21 mars pour s'inscrire et peut-être gagner l'un des nombreux prix. Alors on peut aller sur le site simplement de acelf.ca, acelf.ca. Et ce concours est notamment possible grâce à l'appui financier du secrétariat du Québec aux relations canadiennes. Lors de la Journée internationale de la francophonie, le 20 mars, les francophones du Canada exprimeront leur fierté en participant à la campagne collaborative « Je suis franco » sur Facebook et Twitter. Toutes les personnes inscrites verront le 20 mars une mosaïque de photos et un slogan apparaître sur leur fil de nouvelles. La mosaïque est composée de photos d'internautes reçues à la suite d'un appel sur Facebook. Le prix Mordicus reconnaît des personnes qui s'impliquent dans la promotion de la francophonie. Pour ce faire, les écoles sont invitées à remettre des certificats Mordicus à des personnes dont l'action enrichit la vie scolaire et communautaire. 21 nouvelles activités pédagogiques ont été développées en lien avec la thématique 2018 pour que les élèves aient du plaisir tout en apprenant. Ces activités ciblent tous les niveaux scolaires et stimulent l'engagement pour sa culture et sa communauté. La SELF présente également sur son site plusieurs suggestions de lecture pour les jeunes de tout âge. La SNF est un événement permettant aux écoles francophones de partout au pays de célébrer une francophonie riche de sa diversité en instaurant des projets stimulants qui rallient l'ensemble de la communauté.
Il y en a qui partent tous les matins, qui reviennent un peu à toutes les soirs. Ceux qui vont camper chez le voisin, ceux qui achètent un billet ouvert. Il y a ceux qui travaillent sur la route, d'autres qui partent juste dans les vacances. Ceux qui veulent voyager sur le pouce, les autres qui aiment mieux prendre de l'avance. Il y a ceux qui attendent leur passeport pour entrer à Saint-Boniface. Ceux qui ont lu toutes les routes or, qui vont toujours à même place. Port, 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 sinon t'es mort. Mais moi, je joue plus. Y a ceux qui escaladent les montagnes, puis qui reviennent coucher à la maison. Ceux qui choisissent de prendre l'avion pour un pique-nique à la campagne. Y a ceux qui prennent une sabbatique pour faire un petit tour de vélo. Ceux qui font le tour du monde trop vite, qui finissent par se voir de dos. Les vaccinés de la malaria, les ceux qui ont jamais mal à rien. Ceux qui traversent les États en marchant sur les mains. Oh. T'es mort, mais moi je joue plus. Moi je reste ici, puis je lave mes vitres. Je sais que voir dehors, c'est un début pour voir loin. Y'a ceux qui partent pour pas longtemps, puis qui téléphonent du Népal. Ceux qui vont se brosser les dents, puis qui promettent une carte postale. Y'a ceux qui s'en vont faire fortune, qui se retrouvent tout nus dans le chemin. Les ceux qui sortent parce qu'ils ont soif, les ceux qui reviennent parce qu'ils ont faim. Y'a ceux qui se font des bagages pour aller se refaire une vie. Qui un jour sortent les vidanges, puis qu'on revoit juste au paradis. Port, 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 sinon t'es mort, mais moi je joue plus. Moi je reste là, je reste sans pied de bord. Je sais qu'avec pote, mais les moins de chances de prendre le champ. Et pour le pire, puis ceux qui se partent à la mitaine, puis ceux qui viennent avant de partir. Il y en a qui changent de lit chaque nuit, puis des voyages de noces heureux. Ceux qui font l'amour comme la fuite, qui disent bonsoir, qui pensent adieu. Port, 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 sinon t'es mort, mais moi je joue plus. Moi je reste là, je reste avec toi. Si la porte se rouvre, je reviendrai pas. Je sais que le cœur, c'est une job de bras.
Fred Pellerin, qu'est-ce que c'est bon comme texte quand même. Ça s'appelle « Il y en a qui partent » et ça nous amène, vraiment, ça me tend une perche incroyable pour vous parler de vagabondage en train. C'est du moins ce que fait Dominique Liboiron dans quel journal dont je vais vous trouver ça. C'est dans l'eauvive.ca, c'est un journal de la Saskatchewan. Il est question de l'aventure de nos grands-pères qui partaient comme des vagabonds et qui voyageaient en train. Nombreux, écrit Dominique Liboiron, sont les Francs-Sasquois durant la Grande Dépression qui ont traversé le pays à bord d'un train. À la recherche d'un emploi, nos pères, grands-pères, oncles et frères ont sauté à bord des trains d'un bout du Canada à l'autre. Le vagabondage par train était un phénomène bien répandu dans les années 1930, mais ne pensez pas que ça n'existe plus. Émeralde Ross de Gravelbourg compte parmi les Francs-Sasquois qui se sont déplacés par train au cours de la Grande Dépression et l'expérience a changé la trajectoire de sa vie. Malheureusement, il est décédé en 2012 à l'âge de 95 ans et donc je me suis entretenue avec son neveu, René Ross, qui a partagé l'histoire intéressante de son oncle. Selon René Ross, son oncle sautait à bord des trains à cause de la sécheresse et de la faillite des récoltes. Émeralde Ross a traversé le Canada pour trouver du travail. Sans l'argent pour s'acheter un billet, il faisait, comme bien d'autres hommes, il montait sur des trains en mouvement. Conscient du danger de tomber et soucieux des policiers qui attendaient les vagabonds de ville en ville, Émeralde Ross a connu des difficultés. Mais grâce à ses voyages en train, il a pris connaissance de son pays. Marqué par sa découverte du Canada, Émeralde Ross a décidé que c'était un pays pour lequel il voulait se battre. Il s'est donc joint à l'armée de l'air. Il est devenu pilote de Lancaster pendant la Deuxième Guerre mondiale. Suite à la guerre, le Canada a connu un éveil économique. De plus, les grandes sécheresses ont cessé. Ce faisant, le vagabondage par train est devenu un phénomène rare, mais les Canadiens n'ont jamais oublié cette partie de leur histoire. Dans le but de savoir si ce vagabondage existe encore, elle a demandé, la journaliste, une entrevue avec le Canadien Pacifique, mais la compagnie ferroviaire n'a pas voulu commenter. Récemment, j'ai vu un train arrêté près de l'élévateur de Maple Creek et un des membres de l'équipage a répondu à mes questions. Selon lui, les gens qui sautent à bord des trains, il y en a, mais beaucoup moins qu'auparavant. Mais le phénomène existe toujours, surtout comme moyen de transport. Par exemple, les dernières personnes qu'il a trouvées à bord de son train tentaient de se rendre à Coquitlam, en Colombie-Britannique, à Moose Jaw, soit une distance de 1000 milles ou 1600 kilomètres. Les trois personnes en question voyageaient afin d'assister à un enterrement. Elles ont dû descendre. Selon le membre de l'équipage, les vagabonds d'aujourd'hui aiment se cacher dans les locomotives supplémentaires, c'est-à-dire les engins situés au milieu d'un train où il n'y a pas de personnel. Ces locomotives-là sont vides parce qu'elles sont contrôlées à partir de la locomotive principale située à la tête du train. Le trio de gens qui se rendaient à Moose Jaw s'était caché dans une locomotive au milieu du train. De nos jours, les trains tirent moins de wagons de marchandises, ce qu'on appelle les boxcars en anglais. Il y a donc moins de wagons qui se prêtent bien au vagabondage. Les wagons de charbon sont salissants alors que les wagons de blé, de potasse ou de pétrole laissent peu de place où se cacher. Alors que certaines personnes se servent des trains de marchandises comme moyen de transport, il en existe d'autres qui sautent à bord des trains par goût de l'aventure ou même par intérêt artistique. Un d'entre eux, Mike Brody, estime avoir parcouru entre 50 000 milles ou 80 500 kilomètres en fugue à bord des trains. Au cours de ses multiples péripéties, il avait toujours son appareil photo à la main. Désireux d'une vie libre, sans responsabilité, à la fois obsédé par la passion du voyage et dévoré par le besoin de photographier le mode de vie des vagabonds, Mike Brody a pris des centaines d'images avec lesquelles il a publié deux livres. Le premier, A Period of Juvenile Prosperity, a paru en 2013 et le deuxième, Tons of Dirt and Bone, en 2015. Selon Mike Brody, les vagabonds d'aujourd'hui sont surtout des adolescents, mais aussi quelques vétérans qui sillonnent toujours les rails. Les jeunes vagabonds, dit-il, sont souvent idéalistes et hésitent à accepter les responsabilités et les contraintes du monde adulte. Les jeunes vagabonds cherchent surtout à s'évader, fait savoir Mike Brody. Autrement dit, les vagabonds n'ont pas une destination en tête, ils ne voyagent pas pour arriver, ils voyagent pour fuir. Nous voyons donc un contraste entre le vagabondage d'autrefois et celui d'aujourd'hui. Pendant la Grande Dépression, les hommes sautaient à bord d'un train à la recherche d'emploi. Quoique certaines personnes se servent présentement des trains comme moyen de transport gratuit, d'autres y voient un moyen d'échapper à leur réalité.
Dans train pour Saint-Adèle, il y avait un homme qui voulait débarquer, mais il est donc débarqué. Quand le train fit plus de 50 000 et quand plus de 7 est conducteur, au le train du Nord. Dans train pour Saint-Adèle, il y avait rien qu'un passager. C'était encore le conducteur. Imaginez pour voyager, si c'est pas la petite douleur, au le train du Nord. Tchou, 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 tchou. Le train du Nord, le train du Nord. Au bord du lac, des petites maisons, ça vire en rond. Le train du Nord, c'est comme avant, quand y'a personne là-bas. Au le train du Nord. Et puis le train tout seul continuer au le train du Nord. Dans train pour Saint-Adèle, héros du don bonon laurier. Personne n'a pu l'arrêter. Paraît qu'on a vu filer dans le firmament des nuits passées au le train du Nord. Achou, 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 achou. Le train du Nord, le train du Nord.
Ceci n'était pas un frein de train, mais bien la voix ou encore une sirène de train. Pas une sirène, comment on dit, un sifflet. Bah oui, le train sifflera trois fois. Enfin bon, bref, toujours est-il que c'était la voix des Séguins que nous venons d'entendre à l'instant même, Richard et Marie-Claire, voilà, Séguins. Nous nous transportons maintenant en Alberta, dans le Franco. Ça s'appelle comme ça et, ah mon Dieu, on n'en sortira jamais, un sujet qui n'a pas fini de faire parler de lui. Doit-on parler en anglais ou en français et en français seulement, bref, il s'agit de cela, Franco-Sud qui bannit le français des négociations, évidemment, ça fait des malheureux. Et Luca Pileri qui écrit « En novembre dernier, le conseil scolaire Franco-Sud a déposé une plainte contre ses propres employés. Les enseignants, représentés par l'Alberta Teachers Association. La raison. Les enseignants veulent négocier leur convention collective en français et non en anglais. » Alors, c'est une enquête sur un conflit au cœur du système d'éducation francophone. On trouve ça épouvantable, s'insurge Éric Cloutier, enseignant à l'école Gabriel Roy à Edmonton et président de l'unité locale numéro 24, la branche francophone de l'Alberta Teachers Association. Ce qui l'effraie, c'est que les enseignants risquent de devoir employer la langue de Shakespeare pour négocier leur convention collective avec leur employeur franco-sud. Tout a commencé avec la volonté de revoir les deux conventions collectives des enseignants employées par le conseil scolaire. Alors il faut rappeler que Franco-Sud est né en 2013 de la fusion des conseils scolaires francophones publics et catholiques du sud de l'Alberta, regroupant désormais 14 écoles, dont 10 publiques et 4 catholiques. Le problème, c'est que les conventions collectives précédant la fusion sont toujours en application. L'une est même échue, imaginée depuis août 2016. C'est la première occasion pour les enseignants et les conseillers scolaires de se pencher sur la fusion des conventions collectives, estime le comité de politique économique du conseil scolaire, formé d'enseignants chargés des négociations avec l'employeur. Avec deux conventions côte à côte, l'une pour les écoles publiques et l'autre pour les écoles catholiques, la situation est ambiguë, puisque les enseignants d'un même conseil scolaire n'ont pas les mêmes conditions salariales. Philippe Brizy, enseignant à Notre-Dame-des-Monts à Canemore, préside ce comité et il représente ainsi les 250 étudiants employés par Francosud dans les négociations. Il souhaite justement fusionner les deux conventions pour clarifier la situation. Les 14 écoles de Francosud n'ont pas les mêmes protections salariales. On aimerait amalgamer nos deux conventions, mais on n'a toujours pas réussi à compléter une entente, expose-t-il. Car contre toute attente, les négociations bloquent sur un point essentiel, la langue. Alors Francosud souhaite négocier en anglais, car le conseiller en relations du travail, qui s'appelle Mac Donald, embauché pour les négociations, est anglophone, unilingue, au grand désespoir des enseignants. Et le 12 juin 2017, il y a eu une rencontre non officielle afin d'établir un échéancier et des priorités sur les négociations. Yvan Beaubien, l'ancien secrétaire corporatif du Conseil scolaire Francosud, entame alors les discussions en anglais. Il est souvent présenté comme un grand ambassadeur de la francophonie, mais le voilà qui essaie de parler en anglais lors de la rencontre s'indigne Éric Cloutier. Représentant les enseignants des 4 conseils scolaires francophones de l'Alberta, Éric Cloutier n'avait jamais connu de telle situation. On travaille pour un employeur francophone qui a obtenu la gestion francophone des écoles francophones grâce à une décision de la Cour suprême et maintenant il souhaite parler en anglais, relate-t-il, choqué. Du côté des enseignants, on avance ainsi l'article 23 de la Constitution. C'est une question de principe, au vu des combats qui ont été durement menés dans le passé, comme avec la cause Maï. Malgré la volonté exprimée par les enseignants, Yvan Beaubien poursuivait en anglais et nous demandait de traduire chaque phrase en français, rapporte Éric Cloutier. C'est une situation d'autant plus absurde pour lui que la convention collective sera rédigée en français. Le 28 juin 2017, une deuxième rencontre informelle a lieu. Alors à nouveau, on parle en anglais à la table des négociations. Excédés, les enseignants patientent tout de même jusqu'à la fin de la séance et annoncent qu'ils enverront une lettre stipulant que les futures négociations devront se faire en français. Ce à quoi Yvan Beaubien aurait répondu « Good luck ». Imaginez. Enfin, le 13 novembre 2017, une rencontre, cette fois-ci officielle, est organisée. Le but est alors d'échanger des propositions sur la convention collective. Cette fois, les grands principes de restriction budgétaire de l'employeur Francosud sont donnés en français. Yvan Beaubien a dit que la table des négociations serait en français, mais que Mac McDonald continuerait de parler en anglais. On ne trouve pas ça normal. Nous, si on parle anglais dans les couloirs de l'école, on perd notre travail, souligne Éric Cloutier. À la surprise des enseignants, une plainte est alors déposée par Francosud le 23 novembre contre l'Alberta Teachers Association. Le motif avancé? Les enseignants sont de mauvaise foi dans ces négociations. S'ensuit alors une contre-plainte déposée le 20 décembre par les enseignants eux-mêmes. Le dialogue entre l'employeur et ses employés est ainsi rompu. Dans ce contexte, les négociations s'enlisent sans jamais aborder le contenu des conventions collectives. Engluées autour de la question de la langue, on cherche à fusionner les deux conventions sans avoir de grandes pertes dans les avantages, mais à date, on n'a pas réussi à avoir de discussion sur la substance. Tout ce qu'on a fait, c'est de parler de de la langue, regrette Philippe Breezy. Alors, au cœur du contentieux se trouve ce conseiller anglophone, Mac MacDonald, engagé par Francosud, un homme réputé dans le monde de l'éducation pour ses talents de féroce négociateur. Il négocie d'ailleurs pour 14 conseils scolaires dans la province, la plupart anglophones. Il veut tout enlever des protections salariales, c'est pour ça qu'il l'embauche, car il adopte une ligne très dure, estime Philippe Breezy. Pour lui, l'arrivée de Mac MacDonald n'est pas anodine. La stratégie serait clairement de faire perdre du temps. Ils se disent qu'en attendant, ils n'auront pas à nous donner des avantages. L'enseignant en veut pour preuve le fait que, sur les 10 négociations de convention dans la province, où Mac MacDonald est présent, aucune n'a été conclue. Alors que pour les 27 autres, où il ne siège pas, elles sont déjà signées. Alors le conflit autour de la langue serait ainsi créé de toutes pièces, d'après eux. Son mode opératoire est simple, zéro concession. Donc, ils vont nous chercher sur la langue, car ils savent qu'on va mordre, avance Philippe Breezy. D'ailleurs, aux dernières négociations, les partis avaient dû faire appel à l'arbitrage et il y avait déjà MacDonald, souligne-t-il. Éric Loutier est d'autant plus surpris par la situation qu'il remarque que le conseil scolaire Centre-Nord auquel il appartient a engagé exactement le même conseiller tout en continuant de négocier en français. Ils prennent simplement des pauses pour faire la traduction, précise-t-il. Franco-Sud essaierait-il de gagner du temps pour des raisons économiques? À ce jour, la seule proposition tangible de l'employeur serait que tous les enseignants du conseil scolaire soient sous le régime de la convention collective des écoles publiques, la moins avantageuse des deux pour les salariés. Tous les profs catholiques perdraient ainsi les avantages acquis ces 10 dernières années, dénonce Philippe Breezy. Les enseignants sont malgré tout prêts à faire des concessions. On veut bien négocier certains avantages, mais c'est donnant-donnant. On comprend qu'il y a des coupes budgétaires, indique Philippe Breezy. Mais cette rigueur financière est une pilule parfois difficile à avaler pour les employés qui pointent du doigt un double discours. Sur ces 5 dernières années, j'ai eu une fois une augmentation de 1%, donne pour exemple Philippe Breezy, alors que le salaire d'Yvan Beaubien, par exemple, est passé de 142 à plus de 158 000, oui, de 2015 à 2016, autrement dit, une augmentation de plus de 11%. Alors, il faudra ainsi s'en remettre au Conseil des relations du travail qui tranchera. Si le juge leur donne raison, on va être obligé de parler en anglais, s'effare Éric Loutier. Philippe Breezy, de son côté, n'a pas grand espoir. On va se retrouver face à un arbitre qui va couper la poire en deux. Ça dépendra de sur qui on tombe. On appréhende la décision, confie-t-il. Malgré sa déception, l'enseignant de Canmore tient à souligner qu'il cherche à faire avancer le fait français. J'ai fait le choix du français dans ma vie. Je me bats pour le respect de mes droits en tant que francophone, en milieu minoritaire, insiste-t-il. De source anonyme, le 11 avril serait la date à laquelle une annonce de résolution serait donnée par le Conseil des relations du travail. La tâche s'annonce ardue. Petite note de la rédaction pour finir. La direction de Franco-Sud n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Le National, seconde partie.
D'avoir les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Ayons-nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir, de l'avoir plein nos armoires, dérision de nous dérisoir, car au sentimental, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Il se dégage de ses cartons d'emballage, les gens lavés hors d'usage, et triste et sans aucun avantage. On nous inflige des désirs qui nous affligent, on nous prend pour pas déconner, dès qu'on est né pour des cons. Alors qu'on est des fous, sentimental, avec soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Sentimental, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. On nous cloue d'un chiffre, on nous vend le sédita, ah, le mal qu'on peut nous faire et qui ravage à la mouquère du ciel des fers. Foule sentimentale, on est des foules sentimentales. Foule sentimentale, on est des foules sentimentales. Foule sentimentale, on est des foules sentimentales.
Annie Poulain, ça c'est une de nos valeurs les plus sûres en jazz vocal, le jazz piano aussi, elle s'y prend toujours très bien, notamment pour reprendre des vieux succès comme Foule sentimentale, les chansons bien sûr immortalisées par Alain Souchon. Alors, retour à l'information dans la francophonie, partout au Canada, avec notamment dans le Moniteur acadien, ce papier de Gérard Lessard qui nous fait savoir que il y aura un nouveau foyer de soins de 190 lits à Shediac. Le ministre des Aînés et de Soins de longue durée, Lisa Harris, a fait l'annonce au nom de son gouvernement qu'un nouveau foyer de soins de 190 lits sera construit à Shediac. Le foyer de soins qui remplacera la Villa Providence sera construit par l'entremise d'un processus d'appel d'offres concurrentiel selon le modèle utilisé dans les établissements similaires construits ailleurs dans la province. La ministre Harris a également annoncé que le promoteur choisi devra respecter les conventions collectives existantes et les avantages qui en découlent. Il est important d'offrir de la stabilité et d'assurer une transition harmonieuse vers le nouveau foyer de soins, a dit Mme Harris. Le succès des autres projets de foyers de soins en partenariat public-privé dans la province nous permet de croire qu'il s'agit de la bonne façon de procéder. Le nouvel établissement à Shediac fait partie du plan gouvernemental pour les foyers de soins 2018-2023 qui comprend la création de plus de 1000 lits en foyers de soins et lits pour les personnes atteintes de troubles de la mémoire dans l'ensemble de la province. Le nouvel établissement est une bonne nouvelle pour les aînés et leurs familles et sa construction permettra de créer des emplois directs et des retombées économiques dans la région, a affirmé Victor Boudreau, qui prenait part à l'événement pour le ministre des Transports et de l'Infrastructure, Bill Fraser. La ministre a mentionné que les appels d'offres seront lancés plus tard, dans l'année 2018. Ce sera donc une nouvelle construction qui sera construite à l'intérieur des limites de la ville de Shediac, mais il nous a été impossible de savoir quand et où le nouveau foyer sera construit. Toujours selon la ministre, il aurait été trop coûteux de rénover la Villa Providence, selon les experts consultés. Je vous propose maintenant de vous transporter dans le Grand Nord canadien et dans le journal L'Aquilon, l'aquilon.nt.ca, qui est l'hebdomadaire francophone du Grand Nord canadien, justement, où il y sera question d'histoire, histoire au féminin, avec Tana Deltour, l'ambassadrice de la paix, et c'est une histoire qui nous est racontée dans l'Aquilon par Isabelle Rivard. Tana Deltour est un personnage historique qui a eu un impact important pour les échanges commerciaux du Nord au XVIIIe siècle. Voilà. Née vers 1697 dans une communauté d'aînés, elle fut capturée par un groupe de cris vers 1713. Après un an d'esclavage, elle et une compagne ont réussi à s'échapper. Malheureusement, quelques mois de climat difficile et de manque de nourriture ont eu raison de sa compagne et Tana Deltour fut retrouvée seule par des trappeurs d'un poste de traite de la baie d'Hudson, York Factory. Tana Deltour fut amenée au poste de traite, où elle fit la rencontre de James Knight, gouverneur du poste de traite. Knight fut impressionné par l'intelligence et la force de caractère de Tana Deltour. À cette époque, les forces anglaises venaient de reprendre le poste de traite de la main des colonies françaises et Knight souhaitait étendre son commerce de fourrure vers le nord-ouest. Or, le commerce avec les Dénés était impossible avec cette guerre existant entre les Cris et les Dénés. De son côté, Tana Deltour était convaincue que les échanges commerciaux avec le poste de traite apporteraient énormément à son peuple. De plus, elle désirait profondément la paix entre les Cris et les Dénés. Tana Deltour s'avéra être la personne ressource que Knight recherchait pour régler les hostilités entre les Cris et les Dénés et ainsi faire profiter le commerce à tous. Tana Deltour fut envoyée en mission de paix accompagnée de plus d'une centaine de Cris et d'un employé de la compagnie de la baie d'Hudson, William Stuart. Tana Deltour y tiendra le rôle important d'interprète et de conseillère. Le voyage dura plusieurs mois et les conditions d'une précarité extrême forcèrent le groupe à se segmenter. Plusieurs sous-groupes rebroussèrent chemin. Tana Deltour fit preuve d'une grande détermination, d'un leadership remarquable et d'un esprit bienveillant durant tout le pèlerinage, si bien qu'elle convainquit son groupe de rester en veille quelques jours, le temps qu'elle rencontre son peuple d'aîné et l'invite à conclure un accord de paix avec le peuple cri. Le courage, l'éloquence et la volonté de paix de Tana Deltour permirent une entente entre les Dénés et les Cris. Le déploiement anglais reconnut le succès de la mission à Tana Deltour, qui en fut la principale promotrice et actrice. À la suite de cet accord de paix, une dizaine de Dénés retournèrent avec le groupe du poste de traite pour échanger des connaissances entourant le commerce des fourrures. Tana Deltour y occupa un rôle d'interprète et d'enseignante et exerça une grande influence à la suite de cet exploit d'entente de paix entre les Dénés et les Cris. Knight lui confia une deuxième mission auprès de son peuple d'aînés. Malheureusement, elle ne put exécuter la mission car elle mourra d'une grave fièvre le 5 février 1717. L'exploit de Tana Deltour se raconta par la tradition orale auprès des peuples d'aînés et Cris et fut transcrit dans le journal de James Knight, gouverneur du poste de traite. Aujourd'hui, Tana Deltour est reconnue comme une icône féminine ayant changé le cours de l'histoire canadienne.
À demain, quand je ferme mes yeux jusqu'au petit matin, quand je couche mon corps tête pointant le nord et que je sens mon dos rappelant le troupeau, quand les funérailles de balais là où les gens baillent en anglais font que même la vieillesse en prend de paresse, finit par doubler le masque d'Orphée. Quand l'hypocrisie est de mise entre la peau et la chemise, que la rivière coule et que tout déboule malgré le sang et les dents qui cassent. Non, je ne parlerai pas. Oh. je ne parlerai pas. Car il y a une rivière qui a poussé entre nous. Même si la terre tout entière ferme les yeux et s'en fout. Et si un jour tu y plonges, moi j'y plongerai avec toi. Pour noyer dans la pénombre la grandeur de nos ébats. Et si la terre tout entière se met à rire de nous, nous leur lancerons des pierres pour graffiner nos genoux. Mais non jamais, mais oui je sais que je ne parlerai pas. Bouche gelée jusqu'à ce que nos deux corps soient enterrés. Alors non, je ne parlerai pas. Oh non, je ne parlerai pas. Pour toutes les grand-mères de la terre, celles qui partiront dans le vent, celles qui partiront pour la guerre, armées d'enfants. Moi, j'ai rongé les sabots de l'âme pour oublier que l'on oublie toutes ces obscénités qu'on a préarrangées, que même un pape outré ne pourrait condamner. Alors non, je ne parlerai pas.
Pierre Lapointe sur les ondes de Canal M et toujours Clotilde Seille qui vous accompagne pour vous présenter l'émission Le National. Et tout de suite, je m'en vais au Manitoba dans un journal qui s'appelle laliberté.ca qui existe depuis 1913, un journal francophone. L'éditorialiste s'appelle Bernard Bockel et il signe un papier aujourd'hui qui s'intitule « Le français, langue de cohésion ». Nous voilà, écrit-il, au beau milieu des rendez-vous de la francophonie dont le point culminant sera la Journée internationale de la francophonie du 20 mars. Il s'agit de la 20e édition de ces rendez-vous qui proposent à l'échelle du pays une panoplie d'activités à vocation culturelle et pédagogique. La francophonie, un mot, un concept qui se veut rassembleur, tant il faut bien avoir à l'esprit que près de 300 millions estimés de francophones de la planète représentent, au-delà du lien linguistique, une tranche humaine d'une formidable, d'une extraordinaire diversité. Cette diversité de la francophonie se retrouve aussi à notre échelle manitobaine. Grâce à la naissance du Manitoba imposée à Ottawa par les Métis, Canadiens français de la colonie de la Rivière Rouge, les langues anglaises et françaises ont la même légitimité juridique. Une victoire qui a permis d'abord l'arrivée de Canadiens français du Québec, des États-Unis, puis des Français de diverses régions, quelques Suisses, des Belges. Depuis une vingtaine d'années, par politique gouvernementale, la francophonie manitobaine continue de s'enrichir, notamment d'immigrés africains. Si bien qu'en ce début du XXIe siècle, cette francophonie manitobaine est bel et bien un microcosme de la francophonie planétaire, au point où l'an dernier, les refondateurs de l'organisme politique chargé de défendre les intérêts des francophones ont sans aucune opposition publique transformé une société franco-manitobaine cinquantenaire en une société de la francophonie manitobaine. La fantastique montée en puissance de la population humaine qui a plus que doublé depuis un demi-siècle a fait des langues un enjeu majeur. Comme la langue du plus fort économiquement risque toujours d'étouffer les langues de pays moins riches, la France a dû se résoudre à vanter les mérites du français avant que l'étoile de sa langue nationale ne faiblisse trop. Ainsi, entre 1967 et 1989, les politiciens d'une cinquantaine de pays se rencontraient sous l'égide de l'Association internationale des parlementaires de langue française. Entre 1989 et 1998, ils se réunissaient au sein de l'Assemblée internationale des parlementaires de langue française. Depuis 1998, il se retrouve dans l'Assemblée parlementaire de la francophonie, création politique par excellence. Très préoccupé du rayonnement international de la France, le président français Emmanuel Macron a fait part aux Africains francophones de sa volonté de stimuler un renouveau de la francophonie. Sa démarche fait débat, Car sous-jacente à la défense de la langue persiste toujours le soupçon africain d'un désir de l'ancien maître colonial de préserver ou d'accroître indûment son influence. Les réflexions de l'écrivaine ivoirienne Véronique Tadjo méritent d'être connues. Elle défend une francophonie agissante. « J'estime que la francophonie n'est pas morte, écrit-elle. On peut encore en faire un espace de solidarité. La langue française n'est pas simplement la langue parlée, c'est la langue de l'enseignement dans une majorité de pays francophones. C'est un outil de travail et une porte ouverte sur un monde extérieur. C'est aussi une langue entre nous. Je parle ici en tant qu'Africaine. Nous nous parlons en français. Donc, cette langue joue aussi un rôle de cohésion en Afrique. » Dans l'Afrique, aux centaines de langues locales bien vivantes, la francophonie assure des liens entre gens de divers fonds linguistiques. Au Manitoba, le concept de francophonie existe sous la forme d'espaces francophones pour les personnes qui veulent rester ou devenir bilingues fonctionnels. Qu'on se le dise haut et fort, d'où qu'on vienne, le modèle manitobain de la francophonie n'existe pas en opposition à l'anglais ou pour freiner son influence. Il existe pour mieux souder la société manitobaine. Le français, ici aussi, est une langue de cohésion.
J'aime lire les grands récits de chasse, l'odeur de la besace, le muscle du cheval, les plumes sous les balles. J'aime lire l'album de la comtesse, les tresses et la détresse. J'aime quand un simple mousse la trousse et la détrousse. En pente, les épopées sanglantes, brusquement et soudain. Pourtant, tout allait bien.
C'est Albin de la Simone qui aime lire sur les ondes de Canal M. Ça nous amène à un papier écrit par Julien Caillouette. C'est dans La Voix du Nord ou encore dans Le Voyageur en Ontario. Et ça s'intitule « Une équipe de lecture nouveau genre ». Lire avec fiston est un projet qui vise à donner le goût de la lecture aux garçons de 3e et 4e année en prêchant par l'exemple. La professeure associée de l'Université Laurentienne, Isabelle Carignan, est l'une des créatrices de cette recherche. On assemble un trio, enfants, parents, futurs enseignants, ce qu'elle appelle des trios testostérone, afin de donner à chaque jeune de modèles de lecture, de lecteurs masculins. Avec l'aide d'une professeure spécialisée en relations famille-école-communauté de l'Université de Sherbrooke, France Beauregard, Madame Carignan, spécialiste en didactique de la lecture, a créé ce projet pilote en 2008 en Estrie afin de s'attaquer aux idées préconçues de la lecture. Les élèves qui ont le plus de difficultés sont plus spécifiquement visés. Elle vise les garçons donc de 3e et 4e année parce que c'est vers cet âge-là que ça se passe ou que ça casse. C'est à cet âge-là que la fluidité de la lecture s'acquiert de plus en plus, note Madame Carignan, également professeure agrégée à l'Université TELUC. En se basant sur les 10 droits du lecteur de Daniel Pennac, elle veut que les jeunes garçons réalisent que ce n'est pas vrai que seuls les livres sans images constituent une lecture sérieuse, que la lecture doit se faire dans la tête, qu'elle doit se faire seule ou qu'il faut lire un livre en entier, etc. L'inclusion du futur enseignant a un double objectif. En plus de donner un autre modèle de lecteur masculin à l'enfant, l'expérience outille ses futurs enseignants. On a beaucoup de mal à retenir les enseignants masculins dans la profession, surtout au primaire, note Madame Carignan. Le lieu est également très important pour la bonne marche du projet. Les séances de lire avec fiston doivent de préférence se dérouler à la maison du jeune lecteur ou, à tout le moins, à l'extérieur de l'école. L'école n'est pas nécessairement une expérience positive pour les jeunes qui ont plus de difficultés. Il faut le débarrasser de l'association lecture-école, explique Madame Carignan. La première rencontre a tout de même lieu à l'école afin d'établir un premier contact et d'expliquer les rôles de chacun. Viennent ensuite les séances de lecture à la maison et la dernière séance dans un endroit festif comme un restaurant afin de célébrer leur réalisation. Finalement, l'enfant a le contrôle de la séance, il choisit les livres à lire, qui va les lire et il peut décider de changer de livre, etc. Madame Carignan a transformé le projet pilote en recherche en 2016 grâce à une subvention du Conseil des ressources humaines du Canada. Elle espère comparer les résultats du projet pilote mené au Québec et en Pennsylvanie à ceux de la recherche en Ontario. Elle veut également inclure des trios au Nouveau-Brunswick. Elle a fait quelques ajustements au processus. Par exemple, pendant le projet pilote, il y avait 4 séances de lecture. Dans le cadre de la recherche, elles ont augmenté à 8. Ultimement, j'aimerais que Lire avec fiston devienne un programme de littératie familiale validé et évalué comme étant un projet qui favorise la lecture. Pour y arriver, elle doit valider ses outils de recherche et la méthode de fonctionnement. 2 élèves de l'école publique Foyer Jeunesse, Jérémy Babé-Lavoie et Caleb Blanchette, ont participé à Lire avec fiston en 2016-2017. Interrogés sur leur participation par le voyageur, ils avouent ne pas lire beaucoup plus qu'ils ne lisaient avant, mais lire plus souvent avec leur père. Ils ont néanmoins aimé l'expérience et croient sincèrement, hochement de tête à l'appui, s'être beaucoup améliorés en lecture grâce aux séances. « J'aimerais apprendre des nouveaux mots », lance Jérémy. « J'aimerais pouvoir lire avec mon papa, ça m'a aidé », renchérit Caleb. Cette année, Madame Carignan a réussi à recruter 2 autres trios. Pierre et Tom Harrison en font partie. On apprend tous quelque chose l'un de l'autre, même si ce n'est pas toujours en lecture, souligne Pierre Harrison, père de Tom. Lors de l'une de leurs séances, un télescope dans un Tintin a provoqué une grande discussion sur l'espace, l'évolution des étoiles, et c'est Tom qui l'a mené. Tom apprécie justement le fait qu'il n'ait absolument pas besoin de lire un livre du début à la fin. Le fiston de l'autre trion, Noah Giroux, est convaincu que son niveau de lecture a augmenté plus rapidement grâce aux séances. Son père, Daniel, apprécie particulièrement le temps additionnel qu'il passe avec son fils et avoir la chance de l'entendre lire. Ça nous donne aussi une chance de connaître ses intérêts selon les livres qu'il choisit. Les deux pères estiment que de lire à la maison fait une différence, que ça met le fiston plus à l'aise et en confiance. Le futur enseignant du trio a la tâche de suggérer des livres à lire, mais Madame Carignan insiste sur le fait que le but principal est de partir des intérêts de l'enfant pour favoriser la lecture. Tu n'imposes pas des livres. Les résultats peuvent parfois être surprenants, comme le raconte Serge Lawson, étudiant en enseignement et accompagnateur de Tom et de Pierre Harrison. Lors de la rencontre initiale, Tom avait dit ne pas aimer Tintin, contrairement à son père. M. Larsen a tout de même amené l'étoile mystérieuse à leur deuxième rencontre et c'est ce livre que Tom a choisi de lire en premier. Il avait lu un autre Tintin que j'avais laissé à son père après la première rencontre et il avait finalement aimé ça, indique M. Larsen. En étant l'acteur principal, le fiston se sent engagé et en contrôle, croit M. Larsen. Je peux vraiment lire son plaisir et sa joie dans ses yeux. Le programme universitaire d'enseignement aborde déjà la différence d'appréciation de la lecture chez les filles et les garçons, mais M. Larsen croit que lire avec fiston va au-delà de la théorie et que ce qu'il a appris lui sera bien utile dans sa future carrière. Edouard Niang, qui accompagne Noah et Daniel Giroux, est également heureux de participer à Lire avec fiston. Ça m'a permis de comprendre qu'il faut miser sur les intérêts des élèves pour mieux les aider. Je pense que ça va beaucoup m'aider quand je vais enseigner. Voilà, ainsi s'achève l'émission Le National pour cette semaine sur les ondes de Canal M. Je vous remercie de l'avoir suivi, si vous l'avez suivi. Je remercie mon camarade Mathieu Tessier qui est en régie une fois de plus. Aujourd'hui, c'était Clotilde Sey qui vous souhaite une très bonne semaine. À la semaine prochaine.